Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En cette nouvelle année scolaire, ce qu'on va faire, c'est que avec Clément, on avait décidé, on avait discuté du fait de faire une série. Parce que ça fait quoi? Ça fait 2-3 fois que je suis venu ici et que je prêche des messages aléatoirement. Et en fait, vu qu'il m'a entre guillemets booké pendant les 4 prochains mois, je vais venir une fois par mois. Pour moi, c'est bien de faire une série pour qu'on puisse vraiment développer une sorte de relation, quoi, dans le sens où ce que moi je prêche, ça soit pas juste une fois de plus aléatoire, et qu'il y ait un sens dans ce que je fais, que je perde pas mon temps et que vous puissiez pas perdre votre temps non plus. Et donc, moi, j'aimerais aborder un thème, une série qui constituera justement une sorte de fil rouge entre vous et moi durant les 4 prochains mois, voire plus, si vous êtes satisfait de mon travail. Moi, j'ai grandi dans une église chinoise, en l'occurrence celle de Champs-sur-Marne. Et je faisais beaucoup de choses mécaniquement. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, j'avais beaucoup de choses que je faisais sans savoir, sans comprendre pourquoi. Quelles étaient les motivations derrière, pourquoi je faisais ce que je faisais. Parce que, en grandissant, j'ai grandi à l'église, on m'a toujours enseigné qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait lire sa Bible tous les jours, qu'il fallait prier, qu'il fallait servir, qu'il fallait s'engager dans une église. Et toutes ces choses que, nous, dans notre culture chrétienne, dans notre monde évangélique, on appelle les disciplines spirituelles, d'accord? Et pour moi, l'un des plus grands fléaux, ou l'un des plus grands dangers dans une église évangélique, en l'occurrence, c'est cette mentalité légaliste. C'est-à-dire que on doit faire pour plaire. Et c'est une antithèse de l'évangile de Jésus. Faire pour plaire, c'est une antithèse totale de l'évangile. Et je dis pas forcément que c'est le cas chez vous, mais dans la grande majeure partie de toutes les églises que j'ai pu servir dans ma vie, j'ai constaté ce danger et ce fléau. Et en fait, la tentation, c'est vraiment de faire les choses sans comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait, pourquoi on agit de telle manière en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et je suis sûr et certain que si vous avez grandi à l'église, on vous a toujours dit, répété, qu'il faut aller à l'église, qu'il faut lire sa Bible, qu'il faut prier tous les jours, qu'il faut être impliqué dans le service de l'église. Et aujourd'hui, si vous faites toutes ces choses-là, est-ce que vous savez pourquoi vous faites ces choses-là? Est-ce que vous comprenez le sens de vos actions? Et si vous êtes motivé à faire ce que vous faites, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe derrière ce que vous faites ou pas? Lorsqu'on parle de discipline spirituelle, en général, c'est toujours perçu de manière très négative. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une discipline, tout simplement. Une discipline en soi, c'est quoi? C'est une règle de conduite que l'on doit suivre et dans lesquelles on impose des contraintes à soi-même. C'est ça une discipline. Et comme dans beaucoup de relations, notre relation avec Dieu doit, entre guillemets, pour développer une relation avec Dieu, il doit y avoir une certaine rigueur, en général. Alors, si on part du principe que développer une relation, avoir une relation avec Dieu, c'est un fardeau, comment on peut vivre sa vie de chrétien et de chrétienne? Ça va pas encourager ses activités d'aller à l'église, de lire sa Bible, prier, etc., etc. Alors moi, au lieu de parler de discipline spirituelle, moi j'appelle ça, je parle d'habitude de la grâce. C'est pas forcément en changeant les termes, oui, que l'on va forcément agir d'une autre manière, mais pour moi, une habitude de la grâce vraiment définit ce que ça veut dire que d'aller à l'église, que de lire sa Bible, que de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je parle d'habitude de la grâce? Développer des habitudes spirituelles, c'est nécessaire pour être en bonne santé spirituelle. C'est inconditionnel. Et si, en tant qu'Église, vous voulez être en bonne santé spirituelle, il faut que ses membres soient en bonne santé spirituelle. Et une fois de plus, pour être en bonne santé spirituelle, il faut avoir de bonnes habitudes spirituelles. Et donc, c'est primordial de développer des habitudes spirituelles qui soient saines, qui viennent de l'Évangile et qui soient ancrées en Dieu, en Christ. Parce que développer des habitudes, ça, comment dire, ça oriente notre style de vie, ça transforme notre personne, ça vraiment, ça moule notre caractère. Et surtout, ce qui est important, c'est que si on développe des habitudes de la grâce, ça oriente notre vie pour un amour vers Dieu et vers les autres. Et donc, tout au long de l'année, enfin tout au long de cette fin d'année, on va parler des différentes disciplines spirituelles, enfin des habitudes de la grâce. On va parler des disciplines spirituelles, non, une fois de plus, des habitudes de la grâce, les habitudes de la grâce pratiquées par les chrétiens et les chrétiennes tout au long de l'histoire de l'Église. Pourquoi ? Parce que ça donne un sens à notre vie quotidienne en tant que disciples de Christ. Et vous allez voir que c'est plus que un style de vie. Alors, ces habitudes de l'Évangile ou ces moyens de la grâce que l'on va aborder, on va parler de l'adoration collective, on va parler de la prière, on va parler de la lecture de la parole, on va parler du repos, on va parler de plein d'autres thèmes. Et je ne sais pas si vous lisez beaucoup, mais dans le New York Times, il y a un reporter qui a écrit un article qui s'appelle « La puissance de l'habitude ». Son nom, du journaliste s'appelle Charles Duhigg. Et en fait, dans cet article de la puissance des habitudes, il cite une recherche qui a été développée aux États-Unis qui dit que 40% de nos actions collectives, 40% de ce que font les êtres humains ne sont pas dictées par des décisions, mais par des habitudes. Ce que ça signifie, c'est-à-dire que 40% de tout ce que l'on fait dans une journée ou dans toute une vie, on le fait inconsciemment de manière mécanique. C'est juste une habitude. Et il y a des choses que l'on fait sans y penser, comme respirer, cligner des yeux, etc., etc. Et nous, ça nous semble naturel. Pourquoi ? Parce que c'est totalement intégrer en nous ces choses-là. Et le parallèle avec les habitudes de la grâce, c'est que si l'on intègre ces activités dans notre vie quotidienne, ça devient non plus une discipline, mais vraiment quelque chose de naturel que l'on fait dans notre vie. Et donc, lorsque je parle d'habitude de la grâce, je pars du principe qu'on est né de nouveau, qu'on est régénéré en Christ et que nous sommes de nouvelles créatures en lui. Et si c'est pas le cas, si c'est pas votre cas, si vous n'êtes pas encore croyant, si vous n'avez pas mis votre foi en Christ, ça ne veut pas dire que mon message ne s'adresse pas à vous. Au contraire. Au contraire, pourquoi ? Parce que ces habitudes de la grâce sont également des moyens de la grâce. C'est en allant à l'église, c'est en lisant la parole, c'est en priant que l'on reçoit, que l'on peut recevoir la révélation de Dieu de manière intime et touchante. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore croyant, je vous invite à rester attentif avec moi. En effet, c'est par grâce que Dieu nous est apparu et qu'il continuera à se révéler à nous, à ses créatures. Et c'est de cette façon, c'est par grâce, c'est par les habitudes de la grâce que l'on peut développer ce qu'on appelle, ce que j'appelle une liturgie de la grâce. Lisez avec moi les versets, le verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézaret et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. On remarque ici l'intention de la foule d'écouter, d'entendre la parole de Dieu comme c'est écrit au verset 1. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui motivait cette foule à venir écouter Jésus. Beaucoup de fois, lorsque l'on lit les évangiles, on peut voir que les gens viennent écouter Jésus parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête, soit pour être guéris, soit pour être délivrés d'un démon, soit pour recevoir une bénédiction. Au bout du compte, la majeure partie de ces gens-là voulaient simplement recevoir les bénéfices des actions de Jésus. Alors ma question pour vous cet après-midi, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes assis devant moi parce que vos parents vous ont obligé à venir? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment un amour pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est simplement par habitude? Ça se trouve, c'est un mélange des trois ou de deux motivations. Et en fait, toutes les habitudes ont la possibilité et ont le potentiel d'être bonnes ou mauvaises. Ensuite, lisez avec moi, versets 2 et 3. Il vit au bord du lac de Barque. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, qui est Pierre, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus, c'est un peu bizarre ce qu'il fait Jésus, mais en fait, ça a du sens. Il monte dans l'une des barques des pêcheurs, enfin, il monte dans l'une des barques de Simon, et d'une certaine manière, il entre dans la vie de Pierre, de nulle part. Il s'immisce dans la vie quotidienne, dans les habitudes quotidiennes de Pierre, de Simon qui est un pêcheur. C'était son métier. Il allait en mer, il revenait, il avait ses filets après une tournée. Et c'était sa routine, c'était son travail, c'est ce qu'il faisait tous les jours, Pierre. Et le travail, c'est le quotidien de la majeure partie des gens dans le monde entier. Travailler, c'est pas mauvais en soi. Même si je sais que demain, vous aurez la flemme d'aller travailler. Mais c'est pas mauvais en soi. Travailler, c'est même bien. C'est une bonne chose de travailler. Par contre, c'est la manière dont on approche le travail qui peut être problématique. Et j'ai envie de dire, comme toutes les autres activités que l'on a dans notre vie quotidienne, que ce soit le travail, le repos, la manière dont on mange, ce que l'on mange, les loisirs, etc., etc. Et donc, avoir des habitudes, c'est tout à fait normal. On est des êtres d'habitude. On a tous en nous des habitudes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on veut ignorer la portée de l'ordinaire, de la routine, du train-train quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on distingue l'ordinaire de l'extraordinaire dans la vie de chacun. On est d'accord? On veut mettre en avant l'extraordinaire dans notre vie. Pourquoi? Ben, pour que l'on soit bien vu devant les autres, alors que au contraire on devrait chérir l'ordinaire, le quotidien, le train-train de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un exemple. On est le 8 septembre, c'est la première semaine de rentrée, donc j'imagine que vous étiez en vacances le mois dernier. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on est en vacances? ben on montre sur Instagram qu'on est à la plage, qu'on visite une belle ville à l'étranger, que l'on mange des plats de ouf. Et donc on essaie de vraiment mettre en avant l'extraordinaire. On est d'accord ou pas? Lorsque l'on va prendre le métro demain matin, on va pas faire un Instagram de le métro. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là où je veux en venir. Une autre chose que l'on fait tous les jours. Pensez au réveil. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, tous les matins. C'est quoi votre habitude du réveil? Ça ressemble à quoi lorsque vous vous réveillez? Et j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, c'est une lutte quotidienne de se réveiller. C'est dur, c'est difficile. Mais la beauté du réveil, c'est que lorsque l'on se réveille, au moment où on se réveille, on est entre guillemets pur et innocent. C'est là où notre journée commence. C'est là où on n'a pas eu de pensées négatives ou mauvaises. C'est là où on n'a pas eu d'actions qui auraient pu devenir un péché, etc., etc. Et c'est vraiment ce qui fait démarrer notre journée, le réveil. Pensez au réveil. Et au réveil, c'est certainement pas là où on est dans notre meilleur état. On n'est pas maquillé, on n'a pas pris notre douche, on ne s'est pas brossé les dents. On est, on est au réveil comme on est. Et en fait, moi, je vous invite à refléter vraiment, par exemple, au réveil. Pourquoi? Parce que c'est au réveil que tout s'ensuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que vous faites après votre réveil? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est le cas pour moi, lorsque je me réveille, je prends mon smartphone parce que c'est là où il y a mon réveil. Et c'est notre premier geste. On éteint le réveil et on prend le smartphone. C'est un réflexe. Mais la marque laissée par cette action, par cette habitude, c'est quoi? Ben, ça montre que, en fait, lorsque l'on se jette sur notre smartphone, on n'est qu'un simple consommateur. On est juste des êtres virtuels avant tout lorsque l'on fait ça. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous voit? Les habitudes, la routine, la liturgie quotidienne laissent une marque, laissent une trace sur votre vie, sur qui vous êtes, sur votre personnalité. Et c'est comme ça que s'arrête notre vie au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres, on est des créatures d'habitude. On fait tous des choses mécaniquement. Alors, je suis en train de lire un livre écrit par un professeur de philosophie dans un institut biblique aux États-Unis qui s'appelle James Smith. Et en fait, il a écrit un livre assez intéressant qui parle justement des habitudes. Beaucoup de personnes pensent que ce qui nous définit, c'est ce que on pense. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, il dit que notre monde actuel dit que on est ce que l'on pense. Et c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Mais on part de la fausse supposition. Il dit que c'est une fausse supposition. On n'est pas ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on pense une certaine chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire cette chose-là. Par exemple, on croit dans la justice sociale, disons. Mais est-ce que on va tous aller faire quelque chose pour la justice sociale? Pas forcément. Bien sûr que c'est important de donner une importance à ce que nous croyons, à ce que nous pensons, aux doctrines, à la théologie, etc., etc. Mais pourquoi il y a un écart entre ce que nous pensons et nos actions? Parce que Smith dit que on n'est pas ce que l'on pense. Ce qu'il dit, en fait, c'est que nous sommes ce que nous aimons. ce que nous aimons va façonner nos habitudes, ce que nos actions, notre personnalité. Et donc, pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Mon but, c'est que vous puissiez vraiment faire un inventaire de ce que vous faites tous les jours, dans votre vie, au quotidien, et de penser vraiment à ces habitudes, et de vous poser la question de ce que vous faites, est-ce que ça reflète votre cœur? Parce que notre cœur, c'est vraiment le centre de notre personne. Et ce qui reflète notre cœur reflète ce que l'on aime. Ce que l'on aime, ben, va montrer ce que nous, on valorise vraiment en tant que personne, en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment faire un inventaire, de penser aux actions que vous faites tous les jours. Et donc, les habitudes deviennent une sorte de seconde nature. Ça devient mécanique lorsque l'on les fait. Parce que c'est tellement imprégné en nous. Et ça va vraiment refléter ce que l'on chérit, ce que l'on valorise. Et c'est important de savoir ce que l'on aime. Notre génération, elle est portée par ce qui va changer le monde et méprise l'ordinaire, le quotidien. Ça, on l'a vu. Mais le creuset de la vie d'une personne, le test ultime de la vie d'une personne, c'est vraiment ce qui se produit dans la monotonie, entre guillemets, de notre quotidien. C'est vraiment ça qui définit une personne. On est modelé, on est changé, on est transformé par ce que l'on fait tous les jours, au quotidien, dans la routine de notre vie. Et le banal, l'ordinaire, le répétitif, les habitudes de ce que l'on fait, c'est vraiment ce qui définit qui nous sommes en tant qu'être humain et en tant que croyant, croyante. Et tous ces instants de la vie, justement dans le monotone, dans le quotidien, c'est vraiment en fait là où c'est le meilleur lieu, le meilleur endroit pour rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que c'est absolument important de développer des habitudes de la grâce ou des habitudes spirituelles qui soient saine et qui partent d'une bonne motivation. Lisez avec moi le verset 4. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Ils viennent juste de rentrer, de leur tourner en mer. C'est le soir, il fait tard. Ils sont en train de laver leur filet, enfin c'est le matin, pardon, tôt. Ils sont en train de laver leur filet, ils sont en train de ranger, pardon, leurs affaires. Et Jésus, qui est charpentier de métier, va dire à ses pêcheurs de jeter le filet de l'autre côté. Comment est-ce que toute personne normale prendrait ce conseil? Quand Jésus nous dit de jeter le filet de l'autre côté de la barque, qu'est-ce que l'on fait? On a deux possibilités. Soit on ignore ce que Jésus dit, parce qu'après tout, c'est moi l'expert dans mon domaine. Ou soit on l'écoute, parce qu'après tout, Jésus c'est Dieu. Lisons la réponse de Pierre, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » En clair, là, Pierre, il est en train de dire, « Mais Pierre, Jésus, toute la nuit, on a allé pêcher, et tu nous dis de faire quelque chose dont moi, je suis l'expert. Le fait est que quand Jésus entre dans notre vie, lorsque Dieu entre dans notre vie, il va pas forcément chambouler notre vie. Il ne va pas forcément chambouler les habitudes. Ça peut être le cas, mais de manière générale, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement réorienter dans la bonne direction nos habitudes. Et dans le cas du travail, par exemple, il y a deux types de personnes dans le travail. Soit les gens sont obsédés par leur travail, ils ne pensent qu'à travailler, ils sont carriéristes, ils veulent être bien vus par leur patron. Et lorsque Dieu entre dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils relativisent leur projet de carrière. Ils changent leur manière de penser. Dieu réoriente leur mentalité. Et le deuxième type de personnes, c'est les gens qui sont totalement désintéressés par leur travail. Merci. Il y a des gens qui sont totalement désintéressés par ce qu'ils font. Et lorsque Dieu entre dans leur vie, ben ça change les choses. Pourquoi? Parce que au bout du compte, ils voient leur travail comme une opportunité pour évangéliser, pour partager la parole de Dieu. Et en fait, ce qui est important de voir ici, c'est que Pierre, ici, échoue à voir que ses habitudes de travail, sortir en mer, pêcher, laver les filets, brancher les affaires, c'est connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'il faisait au quotidien. Et le grand problème chez Pierre, et certainement chez nous, son grand problème, c'est qu'on ne voit pas que dans notre quotidien, dans le train-train de notre vie quotidienne, nos habitudes de vie font partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en dépit de la réaction de Pierre, c'est que Pierre jette les filets où Jésus lui demande de faire. Et qu'au bout du compte, il reconnaît Jésus comme un maître. Un maître dans le sens comme un bon enseignant, parce que après tout, il donne de bons conseils, Jésus. Mais Pierre fait aussi confiance à sa parole. C'est ce qu'il dit ici. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il y a une pêche miraculeuse. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Et il dit, voici la réaction au verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pierre se met à genoux ici. Il reconnaît que Jésus n'est pas un simple maître, un simple enseignant, mais ici il appelle par Seigneur, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Jésus est Dieu. Et par cette pêche miraculeuse dont Pierre est l'expert, Pierre arrive à concevoir que Dieu peut avoir une place dans sa vie quotidienne. Il a fait un tout petit pas de foi vers Jésus, avec plus ou moins conviction, mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Il a fait ce petit pas de foi en croyant dans sa parole et sa vie est changée, sa vie est bouleversée. Il s'est rendu compte que Jésus n'était pas un simple enseignant, mais que Jésus était Dieu, qu'il était le créateur de l'univers. Une fois de plus, l'erreur de Pierre, c'était de ne pas avoir réussi à connecter que ses habitudes, c'est beaucoup plus que sa propre vie. Que sa vie quotidienne est intégrée dans le projet du Créateur de l'univers. Je je connais pas vos vies respectives parce que je vous connais pas personnellement, beaucoup d'entre vous. Et je pense que c'est, je suis sûr que vous faites des choses merveilleuses dans votre vie. J'en suis sûr. J'en suis convaincu. Et en fait, quand on fait des choses merveilleuses, on arrive à le voir. Pourquoi? Ben parce que par définition, c'est merveilleux. Ça sort de l'ordinaire. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et quand on, justement on fait des choses incroyables, des choses extraordinaires, on arrive à voir comment ces choses-là, ça vient de Dieu, parce que c'est extraordinaire. Mais le plus dur, c'est de voir les choses merveilleuses dans l'ordinaire. Parce que c'est simplement ordinaire. Mais une fois de plus, je le répète, c'est là, et c'est surtout là, que Dieu agit. La majeure partie du temps. Une fois de plus, c'est facile de partir en vacances, poster un Instagram avec un cocktail au bord de la mer, que de faire des choses banales de la vie quotidienne. Cette semaine, disons que c'était la rentrée pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses cette semaine. Vous avez emmené les enfants à l'école, vous êtes allé au travail, vous avez dormi, vous avez mangé, vous avez pris le métro, vous avez marché dans les rues de Paris. C'est votre routine. C'est ce que vous faites tous les jours. Et en tant que croyant, en tant que disciple de Christ, c'est notre responsabilité de voir et d'être convaincu que ce que l'on fait tous les jours dans notre vie, c'est connecté à quelque chose qui est beaucoup plus grand que notre propre vie. C'est connecté au projet de rédemption de Dieu. Et donc, si on adopte cette mentalité, les choses changent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois de plus, si vous allez au travail et que vous savez que le travail s'est connecté au plan de Dieu, vous voudrez évangéliser vos collègues. Vous voudrez faire en sorte que la parole soit partagée. Lorsque vous prenez le métro et que vous voyez quelqu'un dans une situation inconfortable ou dans une confrontation malheureuse, vous voudrez prier pour cette personne-là. Lorsque vous baladez dans les rues de Paris, vous verrez pas que Paris, c'est juste une belle ville, mais que vous développiez vraiment un fardeau pour la ville de Paris. C'est vraiment de voir que tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est relié à quelque chose de plus grand que notre vie personnelle. L'évangile, par essence, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle, ça vous le savez. C'est une bonne nouvelle. Une fois qu'on incorpore, qu'on intègre cette bonne nouvelle dans notre vie, l'évangile, ça devient un style de vie. C'est plus juste un message, c'est un style de vie. Et donc, je vous lance ce défi cet après-midi. C'est vraiment de faire un inventaire de ce que vous faites tous les jours au quotidien, dans votre vie quotidienne, dans le banal, dans l'ordinaire, dans le train-train quotidien, et de vous demander pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais? Faire le ménage, faire son lit, faire la vaisselle, c'est les choses les plus futiles et les plus banales qu'on puisse faire. Et pourtant, ça peut avoir un impact de fou. Messieurs, lorsque vous rentrez chez vous avec votre femme et que vous faites la vaisselle, que c'est propre le week-end, c'est un impact incroyable chez votre femme. C'est des petits trucs, mais une fois de plus, c'est dans le train-train quotidien, c'est dans l'ordinaire que l'on fait une différence. Quand Pierre accomplit ce que Jésus lui demande de faire dans son travail quotidien, ses habitudes sont orientées d'une manière qui fait que Pierre ne sera plus le même. Lisez avec moi le verset 10. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Pierre et ses amis ont vu Jésus. Qui était Jésus? Jésus a réorienté leurs habitudes quotidiennes. Ils ont tout laissé et sont partis pour suivre Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à en faire de même avec votre vie? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des habitudes qui peuvent être bonnes, qui peuvent être mauvaises. Et vous-même, vous savez quelles sont ces habitudes qui sont bonnes ou mauvaises. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêts à abandonner ces mauvaises habitudes pour en adopter de meilleures? Nous sommes ce que nous aimons. On fait les choses parce que notre cœur nous le dicte. Et ce que nous aimons reflète notre personnalité, ce que notre cœur chérit. Jésus, vous savez, c'est le Fils de Dieu. Il a interrompu intentionnellement, il a interrompu ses habitudes célestes pour venir sur terre. Il a interrompu ses habitudes célestes pour entrer dans notre vie quotidienne. Pourquoi faire? Pour nous incorporer à son projet de rédemption dont on ne devait pas faire partie. Et il a fait exprès d'interrompre ses habitudes pour que nous puissions être intégrés dans ce projet de rédemption. Pour que nos habitudes terrestres puissent être empreintes de sa personne, de ses actions et de son œuvre ultime à la croix et de sa résurrection. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêt à tout laisser et à suivre ce Dieu? Priez avec moi. Seigneur, merci pour Pierre, parce que c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Et c'est juste une personne comme une autre. Il faisait des choses normales, banales, au quotidien. Et tu es entré dans sa vie, et tu as redirigé sa vie, tu as réorienté ses habitudes pour que tu puisses l'utiliser dans ton royaume, Seigneur. Et ma prière cet après-midi, c'est de faire en sorte que tu puisses vraiment faire la même chose dans notre vie, pour chaque personne qui se trouve dans cette salle, que tu puisses réorienter ses habitudes, réorienter sa vie, afin que l'on puisse voir et comprendre que c'est vraiment quelque chose de plus grand, de plus, c'est quelque chose de lié à ton projet de rédemption et pas juste à notre propre vie, à notre petite vie, Seigneur. Et je te demande pour chaque personne ici qui lutte dans ses habitudes, Seigneur, tu puisses l'aider à faire le tri, à se débarrasser des mauvaises habitudes, et ou pour les personnes qui ont des bonnes habitudes, Seigneur, qu'elles puissent voir et comprendre pourquoi elles font ce qu'elles font, et que ce soit pas juste par mécanisme, par habitude, mais que ce soit vraiment quelque chose motivé par la grâce et aussi par le fait de vouloir agrandir ton royaume ici sur terre, Seigneur. Et je te prie pour cette assemblée, pour cette congrégation, Seigneur, que tu puisses la bénir abondamment, la faire grandir, la faire croître en toi, pour que ta gloire puisse rayonner ici, dans cette église, à Saint-Maur, et dans la région parisienne, Seigneur. Et je te prie que vraiment ton nom soit élevé, exalté, au nom de Christ. Amen.